Fred Film Radio, Venice Film Festival, Italy.
Angelo Cerbi, Fred Film Radio au Festival de Venise. On est là avec Sofia Juma, la réalisatrice de Les Bienheureux en compétition de la section Horizonti. Bonjour.
Ravi, bonjour.
Alors, votre film se passe maintenant en Algérie. C'est l'histoire, c'est l'histoire de beaucoup de gens, mais d'une couple qui essaie de faire la fête pour propre,
de sortir pour célébrer,
pour célébrer son propre anniversaire. Mais le film, c'est un film sur le problème de la vie en Algérie maintenant et de la possibilité d'avoir un futur. Il y a des jeunes qui veulent s'en aller, des parents qui ne veulent pas faire partir. Et le titre, c'est Les Bienheureux. Et ils sont pas heureux. Pas trop, disons. Comment est-ce que vous avez choisi ce titre-là et qu'est-ce que vous pouvez nous dire du film?
Les Bienheureux, en fait, c'est ironique. D'un point de vue, je pense, surtout du côté des adultes, parce que leurs espoirs, leurs illusions se sont écroulées avec la guerre civile. Donc oui, ils sont loin d'être heureux, du moins pour les personnages comme Kader, le commissaire, ou Emel qui est la maman de Fahim et qui est professeur à la faculté, donc elle a une visibilité très concrète de la société, de ce qu'elle est en train de devenir, de la situation. Et donc oui, la lucidité du personnage central qui est Emel fait qu'elle est loin d'être heureuse. En revanche, son mari, Samir, c'est quelqu'un qui négocie, qui est dans une espèce de compromission, qui se contente des choses et qui se ment un peu à lui-même. Donc, il fait semblant d'être heureux et il est prêt à accepter cette négociation. Chez les jeunes, c'est plutôt autre chose. À part Feriel, qui a une histoire très difficile, très violente, qu'elle porte physiquement sur elle. Je vais pas forcément le dire. Mais du côté de Fahim, donc le fils, lui, là, ça, c'est plus sa mère qui a envie de le faire partir. Lui, c'est un jeune, il est bien, il est avec ses amis, comme tous les jeunes dans le monde entier, à cet âge-là, on a envie d'être avec ses copains et il fume du shit, de la drogue, il s'amuse, comme on peut s'amuser quand on a 18 ans, 20 ans. Ouais. Mais dans une ville où on s'ennuie beaucoup. On s'ennuie beaucoup, beaucoup. Et donc, ils occupent leur ennui comme ils peuvent. Et il y a beaucoup d'humour chez eux. Donc, eux ne sont pas heureux ni malheureux. Ils vivent leur vie de jeunes.
Écoutez, quel âge avez-vous quand il y avait la guerre civile?
Alors, en 91, j'avais 12 ans. Et au moment... je dis 91 parce que c'est le moment de l'arrêt du processus électoral quand le parti islamiste a reçu tout les trois quarts des suffrages, majorité écrasante. Donc, le processus électoral a été stoppé. Et du coup, à partir de là, les premiers attentats ont débuté. Et puis, à partir de 94, 95, et surtout l'année 97, ça a été une année particulièrement violente. C'était la guerre civile, réellement, des massacres. On parlait de massacres à grande échelle. Et ça va être le 20e anniversaire, justement. Anniversaire, pardon, c'est même pas le mot. La triste commémoration des massacres de Bint Talha. Dans quelques jours, et voilà. Donc oui, à l'époque, Bint Talha, je me souviens, c'était ma rentrée universitaire, j'avais 17 ans, 17 ans et demi, quelque chose comme ça, et on se prenait ça dans la
figure.
Quelle
était votre sensation de ça, votre perception?
Alors c'est très étrange parce que le massacre de Bint Talha a vraiment retenti. C'est quelque chose qui a vraiment mis en effroi toute l'Algérie. Il y avait des images en plus, donc c'était particulier. Des images dont une qui est un peu connue à l'international, ce qu'on appelait la Madone de Bint Talha, où c'est une femme qui se déchire les vêtements par l'horreur. Et nous, on avait d'autres images. Là, il y avait une prise de conscience du drame dans lequel on était. Mais en même temps, du point de vue de jeune et d'adolescente que j'ai été, entre le lycée et puis après la continuité de la fac, et puis notamment de la ville où j'étais, où on était un peu plus épargné par rapport à d'autres villes, Il n'y avait pas ce sentiment. On était vraiment dans la vie. Je me rappelle, on allait faire du camping sauvage en bord de mer, où il y avait les islamistes qui étaient au-dessus, l'armée qui faisait des ratissages, et nous, on était à la plage. On ne se rendait même pas compte. On était vraiment dans une inconscience de vie. En revanche, les parents, oui, ils étaient vraiment plus conscients du danger. Et les parents ont tendance, en plus, à exagérer des sentiments d'inquiétude. C'est vrai que parfois, il m'arrivait de mentir, de dire « bon, je vais juste là », et en fait, j'allais ailleurs. Et donc j'ai eu une vie d'adolescente géniale quelque part, parce que je me suis beaucoup amusée avec j'ai fumé du shit à la plage, on sait beaucoup, on se rendait pas compte, mais je pense que c'était instinctif. J'avais partagé des souvenirs avec des Serbes, j'avais rencontré des Serbes, et en fait on avait les mêmes souvenirs. C'était très étrange, parce que eux disaient comme ça a dû être dur en Algérie à cette époque. Et je dis, mais comme ça a dû être dur au Kosovo à cette époque.
Exactement, ouais.
Et en fait, on visualise pas quand on est à l'intérieur.
Parce qu'on arrive à se donner des chances de félicité. Et
ouais.
Peut-être
chaque
c'est une,
chose, ouais.
C'est une réaction inconsciente aussi.
C'est une réaction de vie pendant des situations de guerre. Je pense que c'est partagé dans tous les pays qui ont eu des conflits. Et puis réellement, moi, vraiment, à Bougie, à l'époque, c'était relativement calme. C'est à Alger, à partir du moment où j'ai habité à Alger, où on sentait que les Algérois étaient vraiment sous tension. Et aujourd'hui, ils le sont encore, en fait. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du trauma, post-guerre civile, mais qui n'est pas exprimé.
En effet, votre film commence avec une écriture qui dit l'Algérie n'a pas encore célébré ses morts.
Oui, elle n'a pas fait le deuil, elle ne le fera pas tant qu'on ne le verbalisera pas. Faire le deuil, c'est se dire aussi les choses et les regarder très particulièrement dans leur vérité la plus crue et en face. Et comme il y a eu un processus qu'on appelle la réconciliation nationale, c'est très complexe. Une réconciliation nationale a été faite aussi dans d'autres pays comme l'Afrique du Sud, le Rwanda. Il y a eu l'expérience rwandaise qui a marché relativement, selon les échos. Après, moi, je sais pas, d'un point de vue Hutu, Tutsi, est-ce que la réconciliation a réellement réussi? Mais d'un point de vue extérieur, on dit que c'est une réconciliation réussie. Le problème en Algérie, c'est que quelque part, il fallait faire quelque chose pour stopper le bain de sang. Donc il fallait, à un moment donné, donner du change et négocier pour qu'ils arrêtent, qu'ils descendent et qu'ils se rendent. Mais en même temps, les victimes n'ont pas eu le droit d'exprimer leur souffrance formellement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne s'agit pas de dire... D'abord, moi, profondément, je suis contre la peine de mort. Ce qu'il y a d'extraordinaire en Algérie, c'est que le moratoire contre la peine de mort a été établi pendant la guerre civile. C'est-à-dire, j'en suis extrêmement fière, même si on n'a pas encore aboli la peine de mort, mais on ne pratique plus la peine de mort depuis 3 décennies pratiquement, et c'est important. Mais je pense qu'il fallait avoir ne serait-ce des tribunaux symboliques, que les victimes puissent dire, nos victimes, nos familles qui ont été victimes des massacres, elles ne sont pas mortes comme ça dans l'oubli, qu'on puisse mettre des noms, des images. J'étais particulièrement frappée par ce qui s'était passé en France, notamment après, entre l'attentat de Charlie Hebdo et surtout après le Bataclan, parce qu'il y avait des photos de toutes les victimes.
Ouais.
Donc on arrivait à mettre des visages sur les gens. C'était pas juste des noms ou un chiffre ou un nombre. Il y avait vraiment, on formalisait cette personne est morte, elle est partie dans l'extrême violence. C'est une reconnaissance qu'on ne peut pas du statut de martyr presque. Faut pas les oublier. Les oublier, c'est les retuer une deuxième fois. C'est
et
cruel.
Ça, vous voyez, ça, il est arrivé aussi pour Orlando.
Oui.
Et aussi pour Manchester avec le concert là-bas. Mais il arrive. Pas arrive pour l'Occident, mais pas pour l'Orient. Ça, c'est une chose... C'est-à-dire, tous les massacres en Afrique ou en Asie, personne ne dit... Il n'y a pas cette
démarche.
Cette démarche, ouais.
Mais c'est ça... Enfin, je ne pourrais pas parler pour le reste des massacres qui ont pu se passer en Afrique, au Nigeria, là, maintenant. Je peux parler à hauteur de ce que je connais de l'Algérie. Je pense que pendant la guerre civile, concrètement, je pense que les gens n'étaient... Je pense que c'était un instinct aussi de survie. On n'avait pas le temps. Enfin, c'est pas qu'on n'avait pas le temps de faire les choses, mais je pense qu'on était tellement dans une urgence de vie et de survie que ça s'est pas organisé. Bien que je pense qu'il y a des associations qui ont essayé de mettre en place quelque chose, mais Mais par la suite, je pense qu'il fallait faire vraiment ce travail-là en amont. Parce qu'aujourd'hui, il y a une société qui est violente, elle ne sait même pas pourquoi elle est violente. Mmh. Ça, c'est à hauteur de... Je pense que les sociologues, ce serait une analyse de comptoir que dire que c'est que la guerre civile qu'on a la conséquence, c'est plein de choses. Mais je pense que nous, dans la culture arabo-musulmane, on a un rapport à la mort philosophiquement qui est très différent de la culture judéo-chrétienne. C'est... La mort, c'est quelque chose qu'on accepte. C'est quelque chose qui fait partie de... Je vais parler du dernier décès que je connais, c'est ceux de mes parents et dont mon père. Et en fait, nos morts, nous sommes confrontés à eux. Mon père est mort de sa belle mort, de vieillesse. Et il est important pour la famille de voir le mort, de l'accompagner. C'est plusieurs jours.
Oui.
Or qu'on a... Je pense qu'en Italie, dans les années 50, 20, il y avait pas de pompe funèbre. C'était nous qui prenions en charge, la famille qui prenait en charge. Et donc, c'est quelque chose de, qu'on intègre. La mort fait partie de la vie,
oui,
on l'accepte. Et je voyais des enterrements en France. La mort est prise en charge par des structures, par l'hôpital, par les pompes funèbres. Donc, du coup, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Qu'on ne veut pas voir. Et ça crée quelque chose par rapport à la mort de violent. On ne veut pas. Ça n'existe pas. C'est comme si ça n'existait pas. Nous, ça, philosophiquement, on l'a. Donc, ça, c'est notre façon de percevoir. Je trouve ça très bien, quelque part. J'ai d'ailleurs une amie, sa famille, sa tante l'a obligée à embrasser son père parce qu'elle ne voulait pas voir son père. Mmh. Elle dit que c'était violent à l'époque, mais 10 ans après, je pense que c'était très important parce que je lui disais au revoir.
Ouais, je comprends.
Et donc, ça m'a permis de faire le deuil, ce qu'elle m'expliquait. Si je ne l'avais pas vu, je n'aurais pas fait le deuil. Mais sur la question d'une guerre civile, là, ce n'est pas une mort naturelle, c'est une mort violente. Et là, parfois, d'une violence extrême, quand on parle d'égorgement. Et là, se pose la question de l'histoire. C'est plus une question que philosophique ou culturelle, c'est une question de l'histoire. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes? Moi, c'est pas des nombres, c'est pas un chiffre, c'est des gens. C'est historiquement à ce qu'on les positionne dans nos manuels scolaires. Il s'agit pas que de leur rendre hommage, il s'agit aussi pour nous prendre conscience de notre propre histoire. C'est notre histoire contemporaine et ce qui nous permet d'avancer aussi.
Oui, c'est vrai.
Mais de ne pas répéter. Et là, c'est comme si on répétait d'ailleurs. Moi, je vois, il y a une remontée de. Je vais parler de bigoterie, de conservatisme.
Oui, qu'on se voit dans le film avec les femmes et avec des règles qui sont si strictes, qui sont stupides.
Voilà. Qui sont violentes, en fait. Et c'est pas des règles qui sont constitutionnelles, c'est des règles sociétales.
Ouais.
Et donc, du coup, ça génère de la violence quelque part. On dit non, mais c'est juste du conservatisme. Le conservatisme ou l'archaïsme, c'est quelque chose au début qui est pernicieux, qui est là. On s'en fout, on se dit, de toute façon, on s'en fout, c'est juste leur mentalité. Mais à un moment donné, c'est des strates et des strates et des strates qui peuvent se développer et se transformer en quelque chose de totalitaire et qui va devenir violent.
Absolument. Une question sur le film, disons plus technique, si on peut dire. C'est un film choral avec beaucoup d'acteurs et beaucoup d'histoires. Comment avez-vous travaillé pour, comme c'est votre premier long métrage, comment avez-vous travaillé pour gérer ce flux de comédiens, de narration?
Alors, je pense qu'il y a eu un travail qui était à la fois très instinctif. Et puis, je posais des questions autour de moi, des personnes qui ont déjà fait des films. Et puis, vraiment, en plus, c'était complexe parce qu'il y avait un casting algérien. Il fallait se dédoubler, il fallait faire un casting en France, un casting à Alger. Les gens qui sont dans la séquence de la cave, c'était un casting sauvage, qui étaient jeunes, qui n'ont jamais joué de leur vie. Il y a eu beaucoup de castings sauvages en Algérie, donc des non-comédiens qui n'ont pas de réflexe de comédien, où il faut... Et c'est des pages blanches et c'est tellement mieux. C'est tellement mieux, c'est tellement plus simple. Et plutôt qu'un comédien formé à l'école, parce qu'elle est mauvaise en Algérie, elle ne forme pas, elle déforme complètement. Et donc, autant prendre des comédiens qui n'ont jamais joué. Et à Paris, on était dans des structures de comédiens professionnels. J'ai eu une directrice de casting à Paris et à Alger. Donc, Karine Bouchama s'occupait de la partie sauvage. C'est un exercice qu'elle adore parce que ça lui permet aussi d'avoir une visibilité de comment la société évolue. Et puis, on a des anecdotes magnifiques. Et du côté de Paris, Juliette Denis, ça a été un casting beaucoup plus classique, mais très ciblé. Parce que moi, j'avais une contrainte, il fallait que les comédiens parlent arabe.
Voilà, et ça déjà, ça
c'était,
fait...
Ça fait, ça réduit, ça réduit, ça réduit. Et idéalement, pour moi, c'était de l'algérien et de l'algérois. Donc là encore, on réduit davantage et on a trouvé la perle rare, Lina Khodri, qui est algéroise.
Ouais.
Et donc ça m'évitait le coaching parce que c'est très compliqué de coacher, d'entendre la justesse de la langue, en même temps de regarder s'il y a une justesse de jeu, donc de l'émotion, c'est très complexe. Mais là du coup avec Lina c'était formidable. Avec les garçons qui sont pas algériens, Adam, c'est lui qui interprète le jeune qui veut se faire se tatouer, lui il est tunisien, l'avantage c'est qu'il parle arabe, mais il a l'accent tunisien et là, c'est très différent. Et Amin Lansari qui joue Fahim, lui parle à peu près marocain, ils sont nés en France, mais il parle à peu près marocain, mais du coup on a fait du coaching. Et comment j'ai fait le coaching? J'ai commencé à Paris et j'ai demandé, une fois qu'ils étaient à Alger, je les ai confiés, jetés dans les bras de l'équipe qui joue dans la CAP. Donc ils se baladaient dans les quartiers populaires, et ils posaient plein de questions et puis ils se sont organisés entre eux et c'était parfait. Donc du coup ils ont vraiment appris à avoir la gestuelle et tout ça. Et techniquement aussi pour les répétitions, je filmais mes répétitions à Alger, je filmais mes répétitions à Paris, notamment les jeunes, c'était surtout les jeunes parce qu'ils se rencontrent, ils passent la soirée ensemble. Donc du coup, en plus on était en semi-improvisation.
Parce qu'il y avait un scénario mais pas si strict. Hein,
non, mais moi le scénario c'est pas la Bible. Hein. À un moment donné, s'en débarrasser. Et les adultes ont été plus stricts en fait. Les dialogues des adultes c'était plus cadré. Les jeunes de la chambre, donc le trio, c'était cadré. Mais je leur donnais, fallait apporter l'humour. C'est très important l'humour, surtout dans un drame, un film aussi dramatique. C'est ça qui donne la vie et qui nous fait respirer, et c'est une résistance, l'humour. Donc du coup, je leur disais, voilà, l'attention, elle est là, éclatez-vous. Donc impro, moi j'enregistrais les impros, et dès qu'il y avait quelque chose qui m'intéressait, je reprenais leur texte, donc du coup, ils m'ont donné du texte, je le notais, et puis après, à Alger, on était en semi-impro. Je leur dis, voilà, ça, je veux ça, je veux ça, mais là, ce que tu veux faire autour, je m'en fous. Et éclate-toi. Et à Alger, c'était vraiment... Impro avec les jeunes de la cave, parce qu'ils ont pas de... Et après, j'essayais de cadrer, de récupérer, parce qu'en fait, il y avait l'intention, il fallait que ça tienne narrativement.
Ouais.
Donc, je disais, voilà, à ce moment-là, il faut cette histoire par rapport au tatouage haram ou pas haram, interdit ou pas péché ou pas péché. Il me faut que tu me donnes cette phrase-là, et autour, tu brodes, et là, il me donne des choses... à la caméra, mais je retenais mon rire, c'était super drôle et c'était dur en même temps. Et ils avaient même compris le repère corporel, ils avaient compris que quand on disait couper, qu'on redémarrait, fallait qu'ils retrouvent l'énergie physique et de jeu. Non, ils ont été extraordinaires. Et en fait, j'avais montré les vidéos des uns à Paris. Je montrais la vidéo algéroise, ils regardaient, ils révisaient sur la vidéo. Puis en plus pour Avenant et Amine, j'écrivais en français de l'arabe pour qu'ils puissent, et j'enregistrais la phrase en arabe pour qu'ils s'entraînent. Mais ils regardaient, ils connaissaient déjà l'équipe. Et à Alger, je faisais la même chose. Je montrais l'équipe française, ils se regardaient et pareil, ils enregistraient. Et quand ils se sont rencontrés, du coup, on avait l'impression qu'ils se sont toujours connus. Les adultes, c'était un travail plus classique.
Classique, voilà. Ouais.
C'était plus classique, on a fait des répétitions plus classiques. Il y a guère que la séquence de Amel à la fin à l'hôtel, où je lui avais demandé de me donner, parce que pour la peine, Nadia Kassi, c'est une Algéroise qui a vécu ça. Elle a vu les gens partir, elle-même est partie. Et donc c'était quelque chose qu'elle a vécu et qu'il fallait qu'elle... Je lui dis, bon, et c'est d'où vient la belle réplique. On pouvait même plus aller dans les enterrements tellement on avait peur de se faire tuer dans des cimetières. Et donc voilà, j'ai récupéré et j'ai remonté par rapport à ce qu'elle m'avait offert. Hajar Ben Mansour, la blonde qui tacle Amine dans l'apéro.
Ouais.
Elle est mathématicienne. Elle n'est pas actrice.
Voilà.
Et elle travaille chez Total. Et donc à Paris, c'est une amie à moi par ailleurs. Je dis pas, Hadja, faut que tu viennes faire un essai. Elle me dit, mais moi je suis pas actrice. Je dis non, mais reste comme tu es, parce qu'elle est très placide, elle est très, elle a un humour presque anglais en fait, elle est très froide et en même temps. Et donc je me disais, c'est le personnage idéal pour répondre à Samir froidement quand elle lui dit, mais t'étais où pendant que nous. Et Salima Abada débute en tant qu'actrice à Alger. Elle est chanteuse. Voilà. Et donc, du coup.
Bon, vous avez utilisé n'importe quel type d'acteur ou pas acteur.
Ouais. Et c'était super agréable. C'est plus rafraîchissant, en fait.
Oui, et c'est très naturel, très incroyable. Voilà. Bon, merci beaucoup.
Merci
Sophie Jama, la réalisatrice de Les Bienheureux, en compétition dans la section Horizonte au Festival de Venise. Moi, je suis Angela Cerbi pour Fred de Festival Insider.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.